BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis notre moisson d'études hebdomadaires. N'oubliez pas nos comptes sur les réseaux sociaux, la librairie de l'écho sur presque tous les réseaux sociaux pour avoir notamment la référence détaillée de tous les livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. Des invités qui nous plongent aujourd'hui au cœur de la région qui concentre toutes les tensions du monde et une bonne partie de ses ressources en gaz et en pétrole également, le Moyen-Orient, bien sûr. Alors, quelles sont véritablement les forces à l'œuvre dans la région? Pourquoi autant d'espoir de paix, de réconciliation déçus? Que peut-on espérer? Quels nouveaux équilibres peuvent se dessiner pour les années à venir? Réponse donc avec nos deux invités du jour. Yasmina Asrarghis, bonjour.
Bonjour.
Yasmina, vous êtes chercheure associée en études arabes et moyen-orientales à l'université de Princeton et à la fondation Jean Jaurès, et vous publiez Le Mirage de la Paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes aux éditions Passé Composé. Adèle Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Adèle, vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI et vous publiez La décomposition du Moyen-Orient chez Talendier. J'aimerais qu'on commence par planter le décor. Adèle Bakawan, vous évoquez trois ruptures qui ont fait basculer l'histoire récente du Moyen-Orient. Quelles sont ces ruptures et pourquoi ce sont des ruptures?
Le 11 septembre, le printemps arabe et le 7 octobre. La décomposition du Moyen-Orient, bien évidemment, il faut d'abord définir le concept. Mmh. Je ne parle pas de la décomposition en termes territoires, frontières, des pays qu'on connaît et qu'on reconnaît encore aujourd'hui. C'est plutôt la décomposition en termes de géopolitique, pôle géopolitique. Avant le 11 septembre, on avait un monde moyen-oriental, arabe, israélien, turc, kurde, perse, relativement stable dans l'historicité, sur la durée. On était parfaitement en mesure de définir, par exemple, la place de la Perse dans ce Moyen-Orient, la place des Turcs, la place des Israéliens ou des Arabes ou encore des Kurdes. Mais à partir du 11 septembre, vraiment, cette décomposition commence. C'est le point de départ de la décomposition. Et quand je parle de décomposition, tout commence à se défaire. Hein. Les pays, les systèmes, les regroupements dans des accords collectifs, etc. etc.
Arrive ensuite.
Le premier moment, enfin le sommet de ce premier moment du 11 septembre, ce n'est pas à New York et à Washington. Bien évidemment, ça commence à New York et à Washington, ouais. Les tours jumelles, mais c'est l'occupation d'Irak. L'occupation ouais. d'Irak. L'Irak était considéré comme le pivot du Moyen-Orient, hein, notamment le pivot du monde arabe. Saddam Hussein, son régime, hein, le grand frère des régimes arabes. Avec la chute de Saddam Hussein, c'est la chute d'un monde. Ce n'est pas uniquement Bagdad qui tombe, ce n'est pas uniquement le régime bassiste qui tombe. C'est vraiment un monde qui tombe. Et ensuite, le printemps arabe arrive. Le printemps arabe, c'est une des conséquences, je dis bien une des conséquences du 11 septembre. Ça s'enchaîne. Hein. Il y a une interconnexionnalité entre les trois moments. Et le printemps arabe, c'est quoi? C'est 10 pays arabes quand même concernés. 10 pays arabes, il y avait deux vagues, la première vague 2011 et la deuxième vague 2019. Les deux vagues, il y a 10 pays arabes qui entrent dans ce que j'appelle la décomposition. Pour la première fois, vous avez des régimes historiques, comme le régime de Moubarak, comme le régime de Ben Ali, etc., etc. Là, on entre dans une décomposition en chair et en os. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ces pays-là non seulement n'arrive pas à se recomposer, mais en plus il plonge dans la guerre civile. Regardez ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, au Yémen, des milliers et des milliers de morts. Et ensuite, le troisième moment,
c'est pour, pour déboucher sur, comme vous le dites, un nouvel ordre à la fois autoritaire et milicien.
C'est ça, exactement. Quand on sort du printemps arabe, juste avant le 7 octobre, on a deux modèles. On a le modèle saoudien. C'est ce que j'appelle l'autoritarisme basé sur trois piliers. Sécurité, stabilité, développement économique, sans jamais parler de la démocratie, des droits de l'homme. Et on a l'ordre milicien iranien. Mais par contre, le 7 octobre...
Enfin, iranien, oui, Hamas, Hezbollah...
Oui, quand je dis l'ordre milicien, c'est que la République islamique d'Iran, c'est que les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique, ont réussi parfaitement à mettre en place pas seulement des organisations miliciennes, c'est pas seulement des organisations qui ont des armes. C'est l'ordre milicien, comme je le théorise dans mon livre, c'est des manières de voir, de sentir, d'exister dans le système. Autrement dit, c'est la prise en charge des États comme l'Irak, le Liban, la Syrie, Gaza, le Yémen. Tout ça, ça appartenait à cet ordre milicien. Et ensuite, le 7 octobre arrive. Si je dois aller vite, n'est-ce pas? Le 7 octobre, pour moi, avec le 7 octobre, on arrive au sommet de la décomposition. C'est vraiment la continuité avec les deux moments, mais jamais, plus jamais, le Moyen-Orient après le 7 octobre ressemblera au Moyen-Orient avant le 7 octobre.
Et d'ailleurs, on pourrait ajouter une quatrième date à celle-là qui précède. C'était l'invasion du Koweït par l'Irak. Vous dites que ça aurait pu être le quatrième événement. Mais beaucoup, quand même, beaucoup d'espoir par moment, les printemps arabes. Et beaucoup d'espoir déçu. Et Yasmina Asrarghis, si je vous demandais de rythmer, vous aussi, les grands moments des 30 dernières années, j'ai été frappé de voir à quel point, finalement, on a dans l'histoire entre Israël et les pays arabes des moments de fol espoir, j'ai envie de dire, Camp David, Oslo, les accords d'Abraham, et vous expliquez très bien, et c'est peut-être le cas du 7 octobre, d'ailleurs, comment à chaque fois qu'on a eu un moment d'espoir, il y a eu derrière un déchaînement de violence.
Oui, alors dans l'histoire du Moyen-Orient, vous avez cette cartographie des pays avec globalement trois blocs. Des blocs qui ont reconnu l'État d'Israël, à savoir les pays comme l'Égypte, la Jordanie, puis en seconde phase, ces pays des accords d'Abraham qui, à partir de 2020 et la première administration Trump, vont s'engager dans un processus de normalisation. Un deuxième bloc qui est effectivement sujet, comme le disait Had, à l'axe de la résistance iranien et donc vont être dans le camp à la fois du refus et du rejet d'Israël. Et puis vous avez un troisième type de pays qui est pour moi hybride, à savoir des pays qui soutiennent et coopèrent mais dans les coulisses, et là on retrouve évidemment l'Arabie Saoudite, également la Syrie qui souhaite aujourd'hui négocier et qui négocie personne à personne, diplomate à diplomate entre les Syriens et les Israéliens. Et donc vous avez pour moi une recomposition du Moyen-Orient dans le cadre de ce qu'on appelle le nouveau Moyen-Orient, qui est une cartographie pensée à l'échelle du Pentagone, de la CIA, mais surtout introduite dans la région par Donald Trump, Jared Kushner et aujourd'hui Steve Witkoff qui est arrivé sur ce deuxième mandat Trump pour accélérer le tempo. Et alors vous parliez d'irruption, ce que j'analyse dans le livre, c'est les grands temps des processus de normalisation israélo-arabe et la manière dont de part et d'autre vous avez eu des négociations dans des salons feutrés de la diplomatie mondaine, qu'elle soit à Washington ou ailleurs, et l'incapacité finalement à la fin de certains de ces processus de comprendre que certaines idéologies radicales avaient préparé les sociétés civiles au point de faire advenir des terroristes qui vont par plusieurs reprises interrompre ces processus de paix. Alors on se souvient, dites-moi.
Mais parce que les vraies forces à l'œuvre ne sont pas les forces diplomatiques en fait.
Les forces de disruption à l'ordre, à l'œuvre sont des forces eschatologiques, mystiques, qui regardent la géopolitique du Moyen-Orient comme un grand affrontement entre forces du bien et forces du mal. Et ces pensées-là, on les retrouve à la fois dans les courants frères musulmans, djihadistes, mais également chez les courants chiites, que ce soit le Hezbollah ou les Houthis. Et vous avez par ailleurs d'autres idéologues du côté américain que sont les néo-évangéliques et du côté israélien, le messianisme religieux, kahaniste, qui dans les années 90 étaient aux marges de cette société israélienne et qui aujourd'hui a trouvé dans cette coalition autour de Netanyahou un moyen de faire entendre sa voix alors qu'ils étaient ostracisés.
Alors, je voudrais qu'on revienne, parce que c'est majeur dans vos deux livres, sur le rôle des États-Unis. Adèle, vous dites, il y a eu, après le 11 septembre, ces néo-conservateurs américains. Concrètement, quand ils ont décidé d'aller rebâtir ce nouveau Moyen-Orient, quelles étaient leurs intentions ?
Écoutez, c'est une question très importante parce qu'en fait, souvent, il y a la démagogie, la propagande ou même l'instrumentalisation autour de l'occupation d'Irak par les États-Unis d'Amérique. Mais d'une manière factuelle, ils n'étaient pas là pour le pétrole. Ils n'étaient pas là parce que Saddam Hussein était totalement opposé à eux et il fallait absolument se débarrasser. Non, ils étaient là parce qu'il avait vraiment un vrai projet de la recomposition, pas seulement du Moyen-Orient classique, mais le Grand Moyen-Orient. Il parlait du Grand Moyen-Orient qui commence du Maroc et qui finit en Afghanistan. C'est toute cette zone-là. Et ça, la genèse de cette idée-là, ça vient après le 11 septembre. Lorsque les terroristes d'Al-Qaïda attaquent les deux tours, le président George Bush, qui ne nous lisait jamais, bien évidemment, hein, même les quatre pages du rapport de la CIA tous les matins, on lui lisait, hein, il ne lisait pas lui-même. Et donc, il n'avait pas une idéologie précise. Mais à partir du 11 septembre, il se pose la question, mais pourquoi on est attaqué ? Pour répondre à cette question-là, la branche libérale, pragmatiste, rationnelle de la Maison Blanche qui était représentée par Colin Powell n'avait pas de réponse. Mais par contre, la branche, l'école, l'approche néoconservatrice avait une réponse toute prête. Nous sommes attaqués parce que nous représentons la civilisation. Qui nous ont attaqués ? Ben, les terroristes. Les terroristes, c'était vraiment de cette nature-là. J'ai analysé en détail, peut-être vous avez lu les discours de George Bush et des néoconservateurs. Eh ben, ces terroristes, ils viennent du Moyen-Orient. Quelle est la solution? Il fallait absolument démocratiser. C'était ça, la mission. Démocratiser le Moyen-Orient. Et comment démocratiser le Moyen-Orient? Il fallait absolument un modèle. Mais l'Afghanistan, c'est très très loin, c'est la périphérie. Il ne peut pas être son modèle. Il fallait absolument trouver un État au cœur du Moyen-Orient, mais un grand État. Et cet État, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Il fallait aller en Irak. Il fallait mobiliser 150 000 soldats, ce qui ne nous fait pas absolument pas Donald Trump aujourd'hui. Et il fallait amener toute la force américaine pour se débarrasser de Saddam Hussein pour un seul objectif. Il n'y avait pas un deuxième objectif. L'objectif, c'est fonder une nation irakienne, je dis bien une nation irakienne, pour qui on va mettre en place un État. Cet État qui est démocratique et libéral et devient un modèle pour l'ensemble du Moyen-Orient. Après, une fois le modèle est mis en place, on fait rien. Les autres peuples du Moyen-Orient vont suivre ce modèle.
Sur l'aspect relations pays arabes, palestiniens, Israël, personne, Yasmina, autant que les Américains, n'a aspiré à changer la donne, à ramener la paix. Vous parlez de Kissinger jusqu'à Trump, et à chaque fois leurs ambitions se sont fracassées sur ce que vous appelez justement le front politico-théologique.
Tout à fait. Alors pour revenir sur le mythe fondateur américain, parce que dans la culture américaine, vous avez cette idée que les États-Unis sont The city upon the hill, une cité, une colline qui viendrait amener la lumière et le savoir sur l'entièreté du monde. Et donc, dans le messianisme originel qui a conduit à la création des États-Unis, vous savez toute cette rhétorique et cette narrative qui donne une mission sacrée aux États-Unis d'accompagner les autres pays et le monde dans effectivement cette conjonction entre démocratie et idées libérales, mais tout ça nourri par beaucoup de religieux. Et donc le paroxysme de ce moment, ça va être la confrontation avec les idées de l'Union soviétique et l'idée que Moscou venait mettre à risque le monde avec cette idée que la religion est l'opium du peuple et il fallait là pour, par défense des valeurs américaines, revenir à un monde où Washington dominerait la scène internationale. Et au Moyen-Orient, cette partition, elle s'est jouée dès la création d'Israël, puisque, rappelons-le, au départ, Israël est fondé par un bloc d'intellectuels plutôt de gauche, ashkénazes, très proches des milieux soviétiques, et américains comme soviétiques pensent que ce nouveau pays, ce nouvel État hébreu pourrait devenir leur point d'ancrage au Moyen-Orient pour à la fois diffuser, contrôler et être une espèce de parabole de leur influence mutuelle. Donc finalement, les Américains ont obtenu ce monopole de la relation avec Israël et les Soviétiques se sont reportés sur d'autres pays qu'ont pu être l'Égypte et la Syrie notamment. Mais c'est véritablement Kissinger qui, dès ses premiers écrits à Harvard, va se positionner comme un conseiller à la sécurité nationale en or, puisqu'il va être nommé à ce poste par deux fois et opérer un changement inédit dans les rapports de force entre plusieurs pays de la région et Israël. Il va être non seulement le médiateur, mais il va inventer ce qu'on appelle la diplomatie navette, qui consistait à la fois à appeler l'ambassadeur soviétique, à appeler l'ensemble des ambassadeurs des pays arabes et essayer de créer une médiation que l'on a pu voir pendant la guerre des six jours et en particulier pendant un certain nombre de négociations jusqu'aux accords de Camp David et plus tard d'Oslo, puisque les...
Est-ce qu'à un moment, on a été à deux doigts de conclure un accord?
Alors, Oslo, les accords de Camp David ont créé un canevas et un espèce d'exemple de la manière dont vous pouviez extraire un premier ministre israélien, un président arabe, les mettre à Camp David aux États-Unis, les faire négocier sur un certain nombre de thématiques, signer une paix à Washington, et l'histoire retiendra évidemment l'assassinat d'Anwar Sadat, puisque très loin de Washington se jouait dans les milieux et les courants de la pensée djihadiste de Saïd Qutb le fait que Sadat n'était pas un président égyptien, mais un pharaon, ça veut dire une personnalité pré-islamique, et en ce sens, sa reconnaissance d'Israël était une mécréance qu'il fallait empêcher par le sang. Et donc, c'est véritablement Camp David qui va monter le prix, si vous voulez, de la paix, et créer un risque vital à tout homme qui, dans la région, signerait et s'engagerait dans la paix israélo-arabe.
Les racines, Adel Bakawan... De ce nœud géopolitique qu'on ne peut pas dénouer. Est-ce que ça n'est pas finalement tous les accords post-Première Guerre mondiale, la conférence de Paris, le traité de Sèvres, etc., 1920, 1923, c'est le traité de Lausanne, c'est ça ?
23, c'est Sèvres.
23, c'est Lausanne, oui.
C'est Lausanne. Ah, pardon. Est-ce que c'est pas là, finalement, que dans cette reconfiguration que les Occidentaux vont faire du Moyen-Orient, que se trouve la source de toutes les tensions ?
À la base, oui, mais désormais, non. Pour moi, il y a quand même une réussite au Moyen-Orient. C'est que c'est vrai, l'État-nation, on l'a imposé au Moyen-Orient. Mais on l'a imposé il y a un siècle, n'est-ce pas ? Dans les années 20. Là, on est en 2026. Un siècle plus tard, je note, et après je vais répondre rapidement à votre question, une des réussites au Moyen-Orient, malgré toutes les difficultés, c'est la consolidation de ce qu'on appelle État-nation. Autrement dit, et c'est l'échec des grands récits. Mm. Aujourd'hui, l'islamisme, autant que macro-récit, c'est un échec total. Le pan-arabisme, le pan-kurdisme, le pan-turquisme, le pan-iranisme, c'est l'échec total. Par contre, la réussite, c'est l'État-nation. Par exemple, lorsque je vais en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les pays du Golfe, aller au Maroc, en Algérie, partout, en Égypte, en Irak. Désormais, on ne s'identifie pas comme arabe. On ne parle pas de l'État arabe unifié du Maroc jusqu'à l'Irak. On parle de la syrianité. On parle de la saoudianité. On parle de l'identité émirienne, de l'identité qatari. Je suis qatari, on est qatari. Autrement dit, analysez le discours de MBZ. Chaque année, pendant l'anniversaire de l'État, jamais, jamais le nom arabe, jamais le nom de la Oumma arabie est cité. Et donc, si, pour répondre... Allez-y.
Non, mais attendez, ce qui frappe, c'est qu'à aucun moment, tous les deux, vous ne me parlez de pétrole.
Oui, mais ah,
okay. Non, on a une vision, on a une lecture qui est toujours la lecture que tout ça se fait d'une façon ou d'une autre.
Mais l'avant avec
au nom des ressources énergétiques. Et en fait, vous dites pas tant que ça finalement.
Alors donc non, je vais reprendre l'eau pétrole. L'eau pétrole participe fortement à l'émergence de l'identité de nationale.
Exactement.
De ce que j'appelle la réussite de la Oumma, c'est-à-dire de la Oumma nationale. Autrement dit, c'est pas la Oumma islamique, hein. C'est la nation saoudienne. C'est la nation qatari. Comment la nation qatari est désormais devenue une réussite? Ou immérienne? Parce que tout simplement, il y a l'eau pétrole aussi. Pas seulement. Mais juste une phrase par rapport à la Palestine. Faites tout ce que vous voulez au Moyen-Orient. C'est pour répondre à votre question. La jeunesse de problèmes. Tous ces problèmes du Moyen-Orient. Vous pouvez régler tous les problèmes. C'est-à-dire quoi? Normaliser les relations Israël avec les Arabes, avec la Perse, avec les Turcs, avec les Kurdes. Faites tout ce que vous voulez. Développer le Moyen-Orient. Mais tant que la question palestinienne
n'est pas réglée,
en tant qu'État, ouais, population et frontière n'est pas réglée, le Moyen-Orient restera toujours instable.
Justement, Yasmina Asrarghis, vous détaillez dans votre livre la nouvelle approche américaine portée par Jared Kushner notamment. Vous qualifiez cette approche d'approche transactionnelle et décomplexée, fondée sur la monétisation des différends plutôt que sur leur résolution politique, et en parlant de Kushner, vous parlez d'un révisionniste kissingérien.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi?
Mais il a poussé l'idée de realpolitik américaine à son extrême. Là, quand il a été nommé par Donald Trump, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est d'appeler Kissinger pour prendre rendez-vous avec lui. Et Kissinger lui a donné un certain nombre de conseils sur la manière d'approcher le Moyen-Orient. Et donc, c'est quelqu'un qui souhaite non seulement faire pousser les intérêts américains dans la région, mais qui également se projette en tant qu'acteur et partie prenante, puisque comme ça a été très bien expliqué, vous avez une montée en puissance des États-nations et une westphalisation, si vous voulez, de ces souverainetés arabes qui veulent sortir de l'ère pétrolière et pour ça investissent et veulent créer des visions, que ce soit la vision 2030 en Arabie ou les autres visions 2030-2040 portées par d'autres pays du Golfe. Ils souhaitent investir la technique pour obtenir une classe moyenne développée et ont besoin donc de diversifier leur économie et de sortir de l'ère de l'économie rentière. Et tout ça implique que le récit national de ces pays va venir privilégier leurs intérêts nationaux, les intérêts de leurs concitoyens, plutôt que des causes qui seraient jugées comme extraterritoriales et non pas prioritaire dans le contexte historique qu'est en train de vivre cette partie du monde.
On est passé de la réelle diplomatie à la réelle esthète diplomatie.
Alors, avec l'équipe de Jared Kushner en particulier et de Donald Trump, vous avez une diplomatie qui ne va pas être de la diplomatie traditionnelle où typiquement sur le dossier palestinien, vous aviez cette question de montée en puissance de l'autorité palestinienne, une question de territorialité avec un État qui viendrait voir le jour et la question des réfugiés. Tout le volet politique de cette diplomatie et des négociations sont mis de côté afin de traiter une équation qui est purement économique. Et le paradigme qui est mis en place, c'est de dire, puisque ces peuples sont irréconciliables, créons une incitation à la paix en montrant que les incitations économiques sont telles qu'on peut changer l'histoire du Moyen-Orient par l'économique. Et donc, globalement, dire que l'infrastructure, la tech sont vecteurs de paix et que on va inverser la chose. Et que le politique et les appréciations mutuelles viendront après parce qu'on montrera avec la création d'une relation émirati-israélienne exceptionnelle, on montrera au restant de la région que seule l'intégration d'Israël et sa reconnaissance peuvent être un canevas de coopération régionale. Sauf qu'en réalité, on a vu la limite d'un engagement et d'une coopération qui inclut uniquement l'économique sans intégrer la question de l'État palestinien et d'autres questions fondamentales pour les émotions dans les opinions populaires et dans l'opinion publique arabe de manière générale. Et le 7 octobre vient ouvrir cette nouvelle phase puisque les pays arabes ont l'obligation aujourd'hui, non seulement morale mais politique, de s'engager et de soutenir une paix et la création d'une solution à deux États dans cette région.
Vous avez 30 secondes chacun pour me dresser les perspectives de la région. Après cette guerre en Iran, comment vont s'établir les grands équilibres? Adel Bakawan.
Vous avez au Moyen-Orient, notamment arabe, trois catégories d'États en cours. La première catégorie, j'appelle les États en cours de décomposition, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, la Libye. Vous avez une deuxième catégorie d'États en cours de consolidation autoritaire basée sur la sécurité, stabilité, développement, moins démocratie, des droits de l'homme, etc. Les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie à un autre degré, on peut parler du Maroc aussi. Et vous avez la troisième catégorie d'États, des États en situation de la guerre civile, notamment le Soudan. Je pourrais inclure à notre niveau la Libye aussi, le Yémen, qui donc il y a une interconnexion entre les trois modèles. Alors, donc je me projette dans ce Moyen-Orient arabe avec une dernière phrase, c'est que si jamais on commence à décomposer les frontières, on entre dans le quatrième moment.
Yasmina Afrarghis, est-ce qu'on va y arriver? Réconcilier finalement les Israéliens, les Palestiniens.
La question c'est vraiment avec qui. On peut pas les réconcilier avec le leadership actuel. Pour avoir une réconciliation véritable entre Israéliens et Arabes, entre Israéliens et Palestiniens, vous avez besoin de leaders courageux qui veulent rentrer dans le détail des négociations, qui sont capables de prendre des risques sur leur propre vie. Rappelons l'assassinat d'Anwar Sadat, d'Isaac Rabin et le 7 octobre. C'était une incitation à l'arrêt de ces normalisations. Et on sait on sait combien aujourd'hui prôner la paix ou la reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens est un risque pour la vie de chacun des leaders dans cette région. Et donc, ce qu'il faut avant tout dans ces pays, c'est un leadership de courage.
Merci beaucoup à tous les deux. On va bien continuer très longtemps encore. Mais lisez ces deux livres qui sont extrêmement riches et extrêmement éclairants et qui vous donnent les clés de compréhension de quasiment tous les problèmes qu'on évoque régulièrement sur le Moyen-Orient. Adel Bakawan, La décomposition du Moyen-Orient aux éditions Talendier. Yasmina Afrarghis, Le mirage de la paix, c'est aux éditions Passé Composé. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec notre moisson hebdomadaire d'études, le coup de cœur de la rédaction. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand Manitou des pages livres, des critiques de livres dans le magazine Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique qui n'accueille que des libéraux, rappelons-le.
Nous sommes là pour obtenir de roi Louis-Philippe le passage au libre-échange.
Voilà. Alors, messieurs, vous avez choisi cette semaine de vous attaquer tous les deux à une somme, hein, les trois tomes de l'histoire environnementale de la France sous la direction de Jean-Baptiste Frissot. Quel défi relève cette histoire environnementale de la France, Christian Chavagneux?
Une douzaine de chercheurs, donc ça fait vraiment un gros collectif. Vous l'avez dit, Emmanuel, nous proposer une histoire environnementale de la France, de la Révolution française à nos jours. Ouais. Bon, ça change pas l'histoire qu'on a du capitalisme français, mais je trouve que ça la complète très très bien. On va parler source de matière, flux d'énergie, aménagement du territoire, pollution, idées générales sur la nature et sur la pollution et sur le capitalisme, espace, paysage. Bref, on va brasser très 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 large. Mmh. Moi, j'ai trouvé que c'était évidemment, on apprend une foule de choses dans ces trois volumes.
Jean-Marc Daniel.
Alors, à la fois, on apprend une foule de choses dans ces trois volumes. C'est extrêmement érudit, extrêmement documenté. Mais d'un autre côté, on finit par se demander, mais quel était le projet véritablement? Alors, au début, dans une introduction, Fressos raconte que c'est une vision tout à fait moderne de l'économie et de l'histoire. C'est une façon d'aborder l'histoire qui est tout à fait récente, qui arrive des États-Unis à travers la nature. Mais à un moment donné, dans un des livres, il y a une citation de Bonald, qui est un écrivain réactionnaire du début du 19e siècle, qui dit « Vous parlez de nature, mais vous ne dites jamais ce que vous appelez la nature. Vous parlez d'éléments naturels, mais vous ne dites jamais. » Et donc, c'est un peu le problème de ces trois livres, c'est que on a du mal à voir quelle est la colonne vertébrale de tout ça. C'est-à-dire, comme toutes les œuvres collectives, est évidemment assez inégal, mais c'est pas tellement ça le problème, c'est plutôt assez égal dans la qualité, mais c'est incohérent. On part dans des sujets, on part dans des directions, et puis on se demande pourquoi ça c'est là, pourquoi d'autres sujets n'ont pas été abordés. Donc, encore une fois, c'est, alors ça se lit pas comme un roman, et on lit pas les trois volumes comme ça dans la journée, donc on peut y aller, on y revient, et puis, mais il y a un effort de mise en perspective, de mise en cohérence, qui n'a pas été fait, ce qui fait que c'est un peu surprenant, voire désarçonnant.
Alors, Christian Chavagneux, reprenons justement, j'ai envie de dire, tome par tome. Ouais. Le premier, c'est La nature en révolution. On est donc, voilà.
1780-1870, donc c'est le premier volume. Moi, je suis surpris d'apprendre qu'au moment de la Révolution française, on se préoccupe déjà beaucoup de tous ces sujets. Il y a une magnifique phrase que j'ai notée, l'Ancien Régime, c'est l'esclavage de la terre autant que les hommes. Et je m'aperçois que dans tous les débats qui sont autour de la Révolution française, on parle de déboisement, on parle de surpêche. Enfin, la nature est vraiment déjà présente dans le débat politique à ce moment-là. Et on passe après début du 19e siècle, là c'est le développement de la chimie, début 19e, de la chimie et de ses pollutions. Et on discute déjà de la chimie et de ses pollutions et des effets négatifs sur la santé des gens de la chimie. La terre doit être rentable. La logique productiviste agricole, elle est là dès le 19e siècle. Et puis, il y a cette statistique, moi, qui m'a beaucoup étonné, qui est à la fin du premier volume. 1789-1870, la France émet pour 1,5 milliard de tonnes de CO2. La Grande-Bretagne, ouais. Même période, 7 milliards. Donc, on voit vraiment la différence d'industrialisation des deux pays.
Jean-Marc.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce volume, alors effectivement, là aussi, il y a un passage sur les sentiments religieux sous le directoire, au travers de la faible culte de l'être suprême, et puis une espèce de philosophie plus ou moins rousseauiste qui se met en place. Alors, c'est un peu anecdotique. Non, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est effectivement de montrer comment c'est une société qui est une société agraire, rurale, donc il y a quand même 70% de la population qui a un contact physique avec la terre, quotidien avec la terre. Et ça, c'est assez bien mis en avant. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le chapitre premier où il mesure la production de l'économie française en quantité, en tonnes. Il dit voilà, et en particulier sur le commerce extérieur, il dit la France se débrouille pas si mal que ça parce que elle, en quantité, en fait, elle importe d'assez faible quantité, elle exporte en réalité des quantités qui ont énormément de valeur. C'est-à-dire sa capacité d'exportation est liée au fait qu'elle a une qualité sur les produits qu'elle exporte qui pèsent finalement pas très lourd sur le plan, mais qui représente. Et donc il y a une sorte de notion de terme de l'échange en tonnes qui est assez intéressante. Alors ce qui montre bien, c'est la montée en puissance du charbon, c'est-à-dire le fait que la France n'a pas de charbon, que la France va dépendre en réalité de la Belgique. Donc le principal fournisseur de charbon de la France en réalité, c'est la Belgique. Et donc ils mettent bien d'avant le fait que aussi Bordeaux et Nantes sont plus proches des bassins miniers anglais que de Valenciennes ou de Saint-Étienne, parce que le transport étant ce qu'il est. Et donc, en fait, c'est le charbon qui va structurer l'économie et qui va susciter effectivement des rapports à la fois au libre-échange, au développement de l'industrie, à la localisation d'un certain nombre d'activités économiques. Donc, j'ai trouvé cette partie assez intéressante. Alors, en revanche, effectivement, il y a des... Encore une fois, il y a des considérations qui sont quelquefois un peu bizarres sur le rapport à la santé, le rapport à la... Bon, comment dirais-je ? De même que les considérations sur la nature, elle était déjà là avec la physiocratie, en fait. Physiocrate, ça veut dire le pouvoir de la nature. Donc, l'introduction de la nature dans le discours politique n'est pas aussi marquée et marquante que ce qu'ils ont l'air de dire, je pense.
Alors, après la nature en révolution... Les natures de la République, Christian.
Donc là, 1870-1940, alors moi, c'est le volume que j'ai le moins apprécié. D'accord. Celui sur lequel j'ai...
J'allais vous demander justement si vous avez un évier.
Paradoxalement, le dernier qui porte sur la période la plus contemporaine, celle qu'on connaît le mieux, c'est celui qui m'a le plus intéressé. Donc celui-là, il y a quand même plein de choses à apprendre. Évidemment, beaucoup de pages qui sont consacrées à la montée du charbon, du pétrole, de l'électricité, parce qu'on est en plein dans cette période. Il y a, je trouve, une partie, moi, la partie qui m'a le plus intéressé, c'est celle sur l'Empire colonial. C'est d'abord l'empire colonial, une appropriation foncière. On va aller se balader du côté du Sénégal et de l'arachide, exploitation terrible de l'arachide au Sénégal pour servir le sieur et consorts en France, le capitalisme colonial qui n'aurait pas pu se développer si on n'avait pas eu cet empire. Et puis il y a, on va voir comment le capitalisme français va épuiser tout le latex africain, et c'est pour ça qu'on va partir en Asie et développer la production du latex en Asie, là aussi avec des conditions de travail et naturelles qui sont vraiment terribles. Donc voilà, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est la partie sur l'empire, bien évidemment revenir sur cette montée du charbon, du pétrole, de l'électricité, les deux premières étant ultra polluantes, mais encore une fois, bon, il y a des choses très, très intéressantes aussi sur les infrastructures portuaires, le développement des infrastructures portuaires, mais bon, c'est pas celui qui m'a le plus intéressé en fait.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que la dimension coloniale apparaît cette fois-là de façon assez évidente. L'empire colonial se constitue après, dans les années 1880, l'empire tel qu'on l'a connu jusqu'au milieu du XXe siècle. Et moi, en complément, il y a d'abord effectivement le passage à l'électricité. C'est quand même l'arrivée de l'électricité par rapport au charbon. Le charbon continue à exister, mais l'électricité, c'est l'élément clé. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est le rôle des ingénieurs. Alors, je ne vais pas survaloriser le rôle de l'école polytechnique, mais il y a quand même des passages sur le fait que c'est la période phare de l'école polytechnique. C'est le moment où les gens sont à la fois au pouvoir, ils contrôlent l'armée d'une certaine façon, ils contrôlent l'industrie. En fait, il y a une espèce de d'osmose qui se fait. Et alors, il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant, c'est celui sur la guerre. La guerre de 14, c'est d'ailleurs le bilan en termes de conséquences sur la nature de la guerre de 14, en rappelant quand même que les chevaux ont joué un rôle déterminant, que l'approvisionnement en avoine a été tout aussi important que l'approvisionnement en pétrole pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il fallait nourrir les chevaux, tout ça. Et donc ils disent, bon, alors il y a eu des dégâts évidents, on a détruit des champs entiers, tout ça, mais cet aspect-là sur l'utilisation des animaux et de l'enjeu sur l'utilisation de ces animaux, j'ai trouvé ça assez original et assez intéressant.
Allez, votre tome préféré, Christian.
Oui, donc de 1940 à nos jours, donc c'est celui qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Bon, un petit mot, un chapitre sur Vichy, bien évidemment, mais surtout les 30 Glorieuses et la mondialisation. Là, je trouve qu'on a vraiment le complément de notre histoire économique traditionnelle des 30 Glorieuses. Ils sont pas du tout glorieuses pour la nature, bien évidemment. C'est le moment de la modernité, du pétrole, puis du nucléaire. C'est le moment où Elf, Erab d'abord, puis Elf Erab va grossir. Donc, on constitue notre champion national sur le pétrole. Évidemment, on est dans un moment ultra productiviste. La consommation d'énergie croît beaucoup plus vite que le PIB. Donc vraiment, c'est là qu'on va exploser nos émissions de CO2 et notre destruction maximale de la planète. C'est une période, j'avais pas vu ça, où le transport ferroviaire diminue. Il y a de moins en moins de lignes en transport, où les tramways ferment. Enfin, on est complètement à rebours d'aujourd'hui où on remet des tramways partout et on essaie d'augmenter la circulation ferroviaire. À partir des années 80, on voit déjà que la France commence à émettre de moins en moins de CO2 sur son territoire. Parce que c'est vrai qu'en partie, il y a le nucléaire qui arrive. C'est vrai qu'en partie, on fait des économies d'énergie, mais surtout, on délocalise. Et donc, si on prend l'empreinte carbone générale, c'est pas uniquement ce qu'on produit chez nous, mais ce qu'on importe aussi parce qu'on a délocalisé, la France, ça baisse aussi, mais la France reste quand même encore une grosse production. Et les riches continuent par contre, eux, les plus riches, à émettre beaucoup de CO2. Il y a deux chapitres sur les contestations intellectuelles et pratiques, les mouvements écologistes, et sur comment l'écologie devient... on a un ministre de l'écologie, pour la première fois sous Pompidou, Robert Poujade, comment l'écologie devient un champ du débat politique.
Jean-Marc.
Oui, alors là, je rejoins ce que vient de dire Christian sur le rôle politique de l'écologie. Le livre insiste beaucoup sur l'émergence de l'écologie en tant qu'enjeu non plus uniquement agricole, industriel, d'organisation économique, mais qu'un enjeu politique. Donc il rappelle d'ailleurs que le mot écologie apparaît dans les années 1860 et la première fois qu'on l'utilise en français, c'est en 1866. Et là, maintenant, ça devient, à partir des années 70, donc il y a deux ou trois chapitres sur la référence politique de l'écologie, avec une analyse de la campagne de René Dumont, qui a été le premier candidat. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, et là aussi, je rejoins ce que disait Christian, c'est le fait que c'est plus la période du pétrole qu'on ne le pense. C'est-à-dire, la Troisième République, c'était la montée en puissance de l'électricité. Là, l'électricité, effectivement, le transport ferroviaire, donc le charbon et l'électricité qui étaient associés au transport ferroviaire sont d'une certaine façon moins présents, même si la vie quotidienne est liée à l'électricité. C'est vraiment la période du pétrole.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre invité co-auteur de l'étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est cette étude événement que publie le Conseil d'analyse économique sous la houlette d'une dream team d'économistes. Allez, je n'hésite pas à le dire. Emmanuel Auriol, qui est avec nous pour parler de cette étude, qui est professeur à l'École d'économie de Toulouse, membre du Conseil d'analyse économique, membre du Cercle des économistes, et vous avez rédigé cette étude, Emmanuel, avec Sébastien Jean, spécialiste du commerce international, et puis Alain Quinet, grand spécialiste, enfin économiste et grand spécialiste des questions de défense. Lui aussi. Cette étude, c'est réarmer l'Europe, relever le défi de l'intégration économique et de l'innovation. Vous partez de ce constat, après trois décennies passées à encaisser les dividendes de la paix, l'Europe doit fournir un effort de réarmement comparable à l'effort consenti durant la guerre froide. C'est à la fois un coût, un défi et une opportunité stratégique.
Tout à fait. Et donc, en fait, cette note, ce qu'elle vise à montrer, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir les robinets budgétaires pour que mécaniquement l'Europe et la France singulièrement, qui est une grande nation quand même de défense, bénéficient en fait de cette manne budgétaire. Donc c'est ça qu'on essaie de montrer. Et pour que l'Europe bénéficie donc de cet effort d'investissement qui est très important, pour avoir une ordre d'idée, on va multiplier par 5 en gros notre budget nominal entre 2015 et 2035. Donc on va passer de 50 milliards à 250 milliards. C'est des sommes considérables. Et nous, notre crainte, c'est que si on se contente de... Donc ce que ça représente, c'est un choc énorme de demande, en fait. Donc tout d'un coup, on veut des armes. Alors d'autant plus qu'il y a la guerre maintenant en Iran, qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est vraiment un choc de demande. Si on fait rien pour restructurer l'offre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des tensions sur les prix, donc de l'inflation. On va payer plus cher la même chose. Nous, là, l'Europe, on est en retard sur l'innovation. C'est quelque chose que le rapport Draghi a montré. Et donc, si on ne restructure pas cette industrie, il faut savoir que la défense, typiquement, quand on fait un effort, qu'on investit en recherche et développement, ça a des retombées à long terme très importantes. Il y a le GPS, dont on bénéficie tous, Internet. Donc ça, c'est des innovations qui ont un impact long terme sur la croissance.
Et donc, un euro investi dans le secteur de la défense, c'est un euro hyper productif, en fait.
Alors, ça dépend où, justement. Si c'est pour acheter des mitraillettes aux États-Unis, non, voilà, pas tant que ça. Si c'est pour investir, justement, dans la recherche et le développement, là, on pense que les multiplicateurs sont supérieurs à 1,5. Mais c'est très dur à évaluer.
Il y a deux défis qui sont liés. Il y a le défi de l'autonomie stratégique et industrielle européenne, puisque vous rappelez qu'un tiers des achats d'armement provient de pays tiers, et deux, il y a le défi du rattrapage technologique face aux États-Unis et à la Chine.
Oui, donc pour l'instant, si on ouvre donc les robinets budgétaires, qu'on augmente nos budgets, ce qui se passe, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les importations augmentent en fait. Donc on se réarme aux États-Unis, en particulier les ex-pays du bloc soviétique, parce qu'ils sont inquiets évidemment à juste titre. Donc, ils veulent le parapluie nucléaire américain. Donc, ils achètent américain. Ils achètent aussi coréen. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas sur le marché européen ce dont ils ont besoin. Et ils veulent des trucs de suite. Donc, l'urgence fait qu'on achète plus à l'extérieur. Donc, en gros, un tiers des armes européennes sont achetées en importation, donc viennent en dehors de la zone euro. Et plus de 50% de ces achats viennent des États-Unis, en fait. Donc, la part des États-Unis a augmenté dans nos importations. Donc là, pour l'instant, on finance, en fait, l'industrie de la défense américaine. Au risque, je répète, que de payer plus cher, d'avoir des délais plus longs, c'est ce qui se passe. Il faut attendre maintenant pour avoir le matériel. C'est pas très productif pour l'Europe. Donc, notre message, c'est de dire, si on veut que ce soit productif pour l'Europe, il va falloir réformer, en fait. C'est un marché qui est terriblement fragmenté. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une expérience naturelle. On a créé le grand marché unique pour absolument toutes les industries. Il y a une industrie qui a été épargnée, c'est la défense, au nom de la souveraineté. Et on voit le résultat aujourd'hui. C'est totalement fragmenté. Il n'y a rien de standardisé. On a plus de matériel de grande taille que les Américains, beaucoup plus, 5 fois plus en fait. Et donc on est très inefficace, on fait des petites séries nationales.
Est-ce que c'est pas ça le principal défi en fait, ce défi du passage à l'échelle européenne?
Il y a ce défi-là, mais il y a aussi le défi de l'innovation, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre un coup de collier, financer la recherche et le développement. Alors nous, ce qu'on propose, d'ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire sur la partie production, proprement de matériel, Bon, en ce moment, il y a des consolidations. Il y a Rheinmetall qui est en train d'émerger en Allemagne, qui rachète des entreprises en Europe. La France fait beaucoup de partenariats, en fait. Elle n'est pas hostile aux partenariats. Donc, on a cet effort de, un peu de consolidation. Mais quand même, chaque pays veut un retour sur investissement. Donc, si je mets 1 milliard, je veux 1 milliard plus ou moins produit chez moi, etc. Et c'est très inefficace parce que c'est au niveau du matériel. Donc, si je mets 1 milliard pour acheter des chars, je veux les faire, ces chars, chez moi. Si c'était 1 milliard dans la défense, et je retire 1 milliard de la défense, on se spécialise selon des avantages comparatifs, ça serait quand même plus efficace. C'est pas le cas pour l'instant, donc il faudrait aller vers ça. Honnêtement, c'est une gageure. On a vu les tensions entre l'Allemagne et la France.
Voilà. Alors, vous dites que c'est un marché oligopolistique qu'il faudrait ouvrir à de nouveaux acteurs. Mais vous pensez à qui? Qui seraient ces nouveaux acteurs?
Par exemple, on a très clairement, alors la France en particulier, donc chaque pays, c'est bien clair, est organisé différemment, puisqu'on n'a pas intégré. Donc la France s'est organisée comment? Nous, on est à part en Europe, on est à part avec l'Angleterre, on est très proche de l'Angleterre. Donc c'est deux pays qui ont l'arme nucléaire et qui font des théâtres, enfin qui ont des tas d'opérations à l'extérieur. Donc ils ont besoin d'un matériel militaire spécial qui peut aller dans le désert, etc. C'est pas le cas de la Belgique, ils ont pas besoin de ça. Donc quand on fait du matériel au niveau européen, on n'a pas les mêmes besoins. Les états-majors ont pas les mêmes besoins, vous voyez. Donc ça pose des problèmes pour mutualiser en fait. Donc on s'engueule, on veut pas la même chose. Et cette fragmentation, on pense qu'elle peut être évidemment diminuée. Notamment sur les grands systèmes d'armes. Sur les petites, les munitions, tout ça, il faut faire, à notre avis, les règles du marché commun, de la concurrence. Ouais. Sur les matériels duals, c'est d'ailleurs la philosophie européenne, là pareil, de la concurrence. Sur les monopoles naturels, dissuasion nucléaire, protection, information par les satellites et tout, c'est pas la peine de faire la concurrence. Au milieu, il faut consolider.
Merci beaucoup, Emmanuel Auriol. Donc, co-autrice, je le rappelle, de cette étude que vient de publier le Conseil d'analyse économique. Réarmer l'Europe, relever le défi de l'intégration économique et de l'innovation. Allez, on se retrouve tout de suite avec la suite du programme.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on s'intéresse cette semaine aux travaux des experts de la société d'investissement Auris Gestion qui évalue ce que pourrait être l'impact d'un choc pétrolier sur l'économie mondiale et de rappeler quelques précieux ordres de grandeur. Chaque augmentation durable de 10 dollars du baril de pétrole provoque une diminution de la croissance mondiale de 0,12% en année pleine, avec évidemment des effets différenciés selon les pays en fonction de leur dépendance ou indépendance énergétique. En tant que producteur et exportateur de pétrole, le Canada et l'Amérique latine profitent de la situation quand les pays d'Asie émergente et la zone euro sont les plus pénalisés avec une baisse de la croissance comprise entre 0,2 et 0,3 points. Et puis rappelons aussi que quels que soient les scénarios à venir sur les prix du brut, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que le monde est bien mieux armé que par le passé pour résister à un choc pétrolier parce que on est beaucoup moins dépendant du pétrole. Pour 1 euro de PIB, il faut quasiment 2 fois moins, voire 3 fois moins de pétrole qu'il y a 50 ans. Et puis, nous ne reproduirons jamais les erreurs de politique économique que nous avions commis à l'époque. Voilà des raisons d'être un peu moins inquiets de cette augmentation du pétrole.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et le coup de cœur de la rédaction, c'est celui de Léa Benaïm. Léa, comment ça va?
Ça va, et vous, Emmanuel?
Notre spécialiste de la tech, enfin, une des dream team,
la dream team
de la tech, voilà, à BFM Business. Et votre coup de cœur, c'est celui donc du livre pour le livre de Raphaël Baquier. Je vais y arriver. Raphaël Baquier, Damien Leloup, Alexandre Picard, nos nouveaux maîtres chez Albin Michel. Qui sont ces nouveaux maîtres, Léa?
Eh ben, ces nouveaux maîtres, c'est Elon Musk, patron de X, Sam Altman, patron d'OpenAI, Sundar Pichai, PDG de Google, Satya Nadella, Microsoft. On va pas tous les citer. Hein, Jeff Bezos, Tim Cook. C'est un peu les Avengers de la tech, c'est eux qui dirigent en partie ce monde. C'est vraiment vraiment le principal enseignement qu'on tire de ce livre. D'ailleurs, l'enquête commence par une image très forte. Une scène où ils sont tous réunis. Ça vous dit quelque chose, Emmanuel ?
C'était souvenez-vous, en janvier 2025.
Le 20 janvier 2025. Exactement. Investiture de Donald Trump. Ces images très impressionnantes de tous ces patrons de la tech invités au Capitole. Ça nous avait vraiment marqué.
Et là, Léa, on se demande quand même qui est le valet, qui est le maître.
Eh bah, ben, ça sera tout. Enfin, c'est vraiment ce qui est expliqué dans ce livre, mais c'est, il y a pas vraiment de rôle, mais oui, c'est exactement la question. Mais en tout cas, les maîtres du monde, ça commence là. Ouais. En fait, le livre raconte comment ce monde de la Silicon Valley qu'on connaissait très progressiste, très idéaliste,
cool,
à la limite
début,
de baba cool, à la limite de utopiste,
des hippies,
finalement. A basculé complètement dans cette sphère MAGA.
Ils ont tous financé la campagne.
Ils ont tous financé la campagne de Donald Trump en grande partie, oui.
Eh ben, comment s'explique ce revirement ? Est-ce que c'est... C'est de l'opportunisme.
Le portefeuille.
C'est que du business. Ou pas complètement.
Franchement, c'est en grande partie le business, parce qu'on parle quand même des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, même si certains restent démocrates, mais bien au profond de leur cœur, dans leurs convictions personnelles. En fait, ils ne peuvent plus l'être dans leurs affaires. L'administration Biden s'est clair mis la Silicon Valley à dos en voulant réguler absolument les géants de la tech. Dans le livre, d'ailleurs, les auteurs racontent une scène marquante. Joe Biden, qui ignore Elon Musk lors d'un discours sur les véhicules électriques et qui ne cite même pas Tesla parmi les constructeurs américains. Alors, c'est un épisode parmi d'autres, hein, une succession de tensions, de maladresses, de confrontations qui ont finalement creusé un fossé entre les démocrates et les patrons de la tech. Les auteurs parlent même d'un divorce. Et quand on regarde l'actualité, hein, on comprend vite que se mettre Donald Trump à dos, c'est vraiment une mauvaise idée. On peut prendre le cas d'Anthropic cette semaine qui a refusé de mettre sa technologie au service du Pentagone. Résultat, l'entreprise aujourd'hui a été placée sur liste noire par Washington, ce qui lui ferme une énorme partie du business.
Il a quand même réussi à les mater finalement un peu, Donald Trump.
Ah bah clairement, il a réussi à les mater et ils ont tous besoin de Donald Trump. Si vous prenez par exemple Mark Zuckerberg avec tous les procès qu'il a en ce moment, un soutien politique, ça l'aide à sortir la tête de l'eau. Jeff Bezos, Elon Musk, leur entreprise spatiale ont énormément de contrats avec le gouvernement américain. Si on prend SpaceX et Blue Origin, ils collaborent étroitement avec la NASA. Sam Altman, le patron d'OpenAI, il vient de signer un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone. Et Tim Cook, de son côté, son problème, c'est les droits de douane. Les iPhones et les Mac, ils sont principalement produits en Asie. Donc vraiment, quand on regarde au cas par cas, ils ont intérêt à garder des bonnes relations avec la Maison-Blanche. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, Emmanuel, entre le valet
et le maître,
c'est qu'en fait, la Maison-Blanche a aussi besoin d'eux. Finalement, c'est eux la croissance des États-Unis. Ouais. C'est un petit peu notre CAC 40 américain.
Merci beaucoup, Léa, pour nous avoir donné envie de lire donc nos nouveaux maîtres. Raphaël Baquet, Damien Leloup, Alexandre Picard, chez Albin Michel. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors, j'ai pris le dernier livre de Hubert Rodary qui s'appelle « Trump face à un monde qui avait besoin de changement ». Donc, Trump est devenu le personnage incontournable de beaucoup de productions littéraires. Là, Hubert Rodary fait un livre en deux parties. Une première partie qui est l'inscription de Trump dans l'histoire américaine. Il rappelle quand même que les États-Unis ont été protectionnistes de façon assez systématique dans l'histoire. Et donc, il n'est pas aussi surprenant par rapport à ce que l'on sait des États-Unis. C'est pas le libéralisme total. Les États-Unis, c'est beaucoup plus protectionniste. Et puis ensuite, il revient sur Trump en tant que tel. Et donc, il explique que grosso modo, Trump va avoir bousculé complètement le monde en ayant remis en cause notamment le rôle du libre-échange. Mais ça, c'était... Mais aussi le statut du dollar qui est en train d'évoluer, le statut de la tech qu'il veut davantage maîtriser. Il y a une forme d'interventionnisme de Trump qui n'est pas uniquement protectionniste. Donc, il dit qu'il aura des conséquences. Donc, c'est une des multiples analyses de...
C'est un financier, hein, Hubert Rodary.
Oui, absolument.
Christian Chavagneux.
L'appel du marché, c'est un livre de la sociologue Mélène Robert. C'est comment l'administration publique des PTT est devenue La Poste et France Télécom. Orange plutôt. Et c'est vraiment passionnant parce que on dit bon, il y a l'évolution technique, la mondialisation, ça, il dit attends, il faut aller regarder les batailles internes entre les différents entre les ingénieurs des télécoms souvent sortis de Polytechnique et puis les administrateurs des PTT qui sont plutôt montés en interne qui viennent d'un milieu plus populaire, et on voit comment les batailles entre les deux, notamment le fait que les ingénieurs des télécoms aient voulu gagner leur autonomie, gagner leur propre budget, rentrer dans la modernité par rapport aux gars des PTT qui semblaient un peu à leurs yeux médiocres. Et cette bataille a beaucoup joué, les rapports de force entre les administrateurs des PTT et les administrateurs télécoms ont beaucoup joué pour faire évoluer vers la privatisation et vers le changement technologique.
C'est Michel Rocard qui racontait qu'il avait fait des dizaines et des dizaines de réunions avec des petits groupes de salariés, justement, pour essayer de leur expliquer la transformation, finalement.
Il y a une bonne partie du livre qui porte sur et quand la gauche arrive en 80, comment ça bouscule tout ça. Mais en fait, c'est quand même la libération, c'est quand même le libéralisme revanchard de 86. Explique le livre.
Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.